puis, moi, j'ai accepté qu'il m'envoie le texte et puis que je vois exactement de quoi il retournait. Je dois dire que si je m'étais rendu compte de ce que ça représentait, je ne sais pas si j'aurais accepté. Parce que, en fait, ce n'est pas tellement le nombre de répétitions, mais c'est le fait que je n'ai plus une mémoire de 25 ans pour mémoriser les choses. Comme c'est un texte en vers, avec un rythme précis, avec des rimes, et très souvent des enjambements, c'est-à-dire que un acteur dit la première moitié du vers et puis c'est l'autre qui dit la deuxième moitié. Il faut que ça,
Précision.
qu'il y ait la précision et puis qu'on s'en tienne strictement au texte. Alors là, je dois dire qu'il m'a fallu pas mal de temps, pas mal d'exercices pour arriver à enregistrer ce texte. Mais finalement, c'est bien déroulé, puis j'ai pas du tout regretté de l'avoir fait, parce que c'était vraiment une expérience très riche.
Oui, puis ça entretient aussi la mémoire, tout
Ah,
ça, ça
ça
reste.
maintient aussi la mémoire, oui, c'est sûr. Mais bon, j'étais habitué à un autre type de mémoire, travailler dans le domaine qui est le mien, dans le domaine de l'hébreu. Et voilà, ben, là, il fallait apprendre un texte et puis le jouer. Bon, on avait la chance d'avoir François Rochet, qui est un type tout à fait remarquable, compétent et sympathique,
Expérimenté.
qui savait très bien nous diriger, qui savait très bien changer d'avis en cours de route et puis faire passer sans qu'on se sente désorienté. Alors, non, c'était une très bonne.
Il m'avait
Très bonne
donné des résultats
expérience, et puis ça a eu
chouettes.
bien du succès.
C'était toujours plein, hein?
C'était toujours plein, oui. Le
Toujours plein.
dernier dimanche, là, le 4 janvier, où on l'a redonné une deuxième fois le soir, oh, il devait rester, je pense, une dizaine de places convenables dans la collégiale.
Ah oui, ah mais c'est
Mais
bien.
non, ça a eu bien du succès, en tout cas. Oui.
Et à part ça, l'hébreu, tu l'utilises encore? Alors, tu as
Alors,
des occasions?
oui, moi je travaille toujours encore pour les sociétés bibliques.
D'accord.
Je travaille toujours dans ces domaines des commentaires de livres bibliques destinés aux traducteurs de la Bible, où on aborde pas seulement les questions d'ordre exégétique, mais justement toute espèce de questions d'ordre linguistique,
Linguistique. Ah, ben oui, ça c'est
pour
intéressant.
aider ces gens dont certains n'ont que des connaissances limitées des langues anciennes.
Ah, j'imagine.
Ils traduisent le plus souvent à partir de versions
Déjà traduite.
françaises ou en anglais. Et il faut leur fournir un certain nombre d'informations sur les nuances que les mots hébreux ou grecs pour le Nouveau Testament peuvent avoir. Et comme dans n'importe quelle langue, enfin, vous en savez quelque chose, les mots ont toujours un sens en fonction d'un contexte,
Bien sûr.
hein, où ils prennent un sens particulier en fonction du contexte dans lequel ils sont
Bien sûr.
employés. Alors, il y a des informations de ce genre-là à donner qui n'apparaissent pas forcément dans les versions en langue moderne. L'exemple le plus frappant, c'est le you en anglais qui peut être singulier au pluriel. Alors, dans certaines langues, eh bien, il faut faire la différence. Alors là, il faut pouvoir dire, dans les manuels anglais, ils disent assez régulièrement, ben, ce you est un singulier et puis celui-là est un pluriel, de telle manière qu'on puisse le rendre de façon correcte dans les langues. Ou bien le autre exemple, il y a bien des langues dans lesquelles on a deux pronoms « nous », première du pluriel. Ouais. Un « nous » dit inclusif, un « nous » exclusif. Voilà. C'est-à-dire, si je dis « nous », ça peut être « nous trois qui sommes ici », ou bien ça peut être un groupe, le Conseil d'État, face au Grand Conseil. Nous, Conseil d'État, nous pensons que, qu'est-ce que vous décidez ? Nous, par opposition à vous. Alors, il y a des langues qui font cette différence. Le français, l'hébreu ne le font pas. Donc, il y a des fois où c'est très important que les traducteurs sachent, pour leur propre langue, de quel « nous » il s'agit. D'accord. Alors, je travaille dans ce domaine-là, et c'est un travail qui m'intéresse, qui par ailleurs rend service, donc tout va bien, comme ça, j'ai pas le temps de m'asseoir dans un fauteuil devant la télévision puis de m'endormir.
Mais ça s'adresse aussi beaucoup à des Africains qui traduisent la Bible.
Alors oui, c'est essentiellement pour les pays francophones d'Afrique, pour la Polynésie française, pour ces pays-là.
Qui vont traduire après.
Qui vont traduire dans leur propre langue.
Dans leur langue d'origine.
Oui, exactement. Donc, vernaculaire. Exactement.
Donc ils font le lien entre l'hébreu, le français,
voilà. Et la langue autochtone. Et leur langue. Ah oui. Parce qu'au fond, historiquement, dans le domaine de la traduction de la Bible, les choses se sont passées de la manière suivante. Au 19e siècle, c'était les missionnaires qui traduisaient la Bible. Ils allaient dans le pays, ils apprenaient la langue aussi bien que possible, et puis ils traduisaient la Bible. Et ils le faisaient avec souvent beaucoup de compétences, mais c'était pas leur langue maternelle. Donc, il y avait des choses, ils avaient beau demander aux gens, est-ce que c'est juste si je formule les choses de telle et telle manière? Mais, parfois, ou même assez souvent, les locuteurs de la langue de destination n'osaient pas dire aux grands missionnaires blancs que ça jouait pas. Il avait un tel respect, c'était lui qui savait. Donc, s'il avait traduit de cette manière-là, c'est que c'était juste. Alors, par conséquent, dans certaines versions, on s'est rendu compte par la suite qu'il y avait des erreurs de traduction ou simplement des phénomènes ridicules. Un mot qui était juste, mais qui résonne de manière trop proche avec un autre mot qui fait rire. Alors, les gens n'osaient pas rire quand ils entendaient lire cela. Mais enfin, il y avait un malaise. Dans l'histoire d'Esther, la reine Esther, la première épouse répudiée par Xerxès, qui s'appelait Vashti. Vashti, c'est le mot hébreu, ça sonne comme vache. Donc, ça risque de faire sourire. Alors, dans la traduction en français courant, on la transcrit par Vashti. Juste modifier un son pour éviter ce genre de ridicule. Alors, ça, c'était la première étape dans le domaine de la traduction. Et on s'est rendu compte que des déficiences que cela pouvait représenter. Et dans le milieu des sociétés bibliques, on s'est dit, il faut vraiment que le travail soit fait par des gens du pays. Des gens dont c'est la langue maternelle. Alors, on a essayé de voir dans les écoles bibliques, dans les facultés de théologie d'Afrique, des gens qui étaient intéressés par ce type de travail, et on s'est dit, on va leur offrir des bourses d'études pour poursuivre leurs études, se perfectionner dans les langues anciennes, et ensuite pouvoir faire ce travail eux-mêmes de traduction. L'idée était intéressante, mais en fait il y avait un inconvénient, c'est que, enfin, il y avait plusieurs inconvénients en fait. Tout d'abord, un étudiant en théologie, il n'avait pas forcément sa faculté de théologie ou son école biblique dans sa propre région. Donc souvent déjà pour arriver à un niveau baccalauréat, il devait sortir de sa propre région et parler une autre langue. Il oubliait, il n'avait plus la possibilité de parler régulièrement sa langue. Et ils faisaient leurs études souvent en anglais ou en français ou éventuellement en espagnol dans d'autres régions. Et donc coupés de leur milieu naturel. Et puis si ensuite on leur offrait une bourse d'études pour l'Europe ou pour les États-Unis, moi ça faisait de nouveau quelques années où ils étaient coupés de cela et où ils apprenaient à penser dans une autre langue. Et certaines langues africaines, qui parfois n'étaient même pas encore écrites, évoluaient beaucoup plus rapidement qu'une langue écrite. Donc, ils étaient parfois coupés de leur propre culture pendant 10 ans, et quand ils retournaient chez eux, ben la langue avait évolué. Et puis, eux avaient été très influencés par le mode de pensée, le mode d'enseignement de l'Occident. Alors, il y avait un décalage, un déphasage pour eux. Et puis, il y avait aussi le risque que ces gens aient tellement pris goût à la vie à l'occidental qu'ils n'aient pas envie de retourner chez eux. Alors, au fond, la procédure actuelle dans ce domaine-là, c'est de dire qu'il faut vraiment que le travail de traduction soit fait par des gens du pays qui parlent régulièrement la langue. Alors, même s'ils n'ont pas des connaissances approfondies des langues anciennes, avec l'aide de conseillers en traduction, ils peuvent arriver à faire un travail qui soit valable.
D'accord. Et en particulier avec vos commentaires.
Alors, ces commentaires sont destinés à aider ces gens-là aussi. Mais bon, tu connais Théo Schneider, je pense. Bon, lui a travaillé pendant 20 ou 25 ans comme conseiller en traduction, en particulier pour la traduction de la Bible en Tsonga. Alors, il travaillait avec une équipe de traducteurs africains, soit d'Afrique du Sud, soit du Mozambique, puisque le Tsonga est parlé des deux côtés de la frontière. Et, lui, c'est pas lui qui traduisait, mais il savait suffisamment le Tsonga pour pouvoir aider les gens et pouvoir les conseiller dans ce domaine-là. Mais il est important que le travail soit fait vraiment par des gens qui sont des locuteurs, des véritables locuteurs de la langue.
Des fois des contacts avec des gens qui sont sur les terrains ou bien...
Alors, pas beaucoup, non, en fait. Moi, je travaille régulièrement, justement, avec Théo Schneider et avec un collègue vaudois, Jean-Claude Margot, qui a aussi été conseiller en traduction, il a participé à des sessions de travail en Afrique, mais il n'a jamais résidé lui-même en Afrique. Mais il a supervisé un certain nombre d'équipes de traduction. Il est allé, je ne sais pas combien de fois, en Afrique pour des sessions de quelques jours, quelques semaines. Alors, il connaît bien tout ce domaine de la traduction. Alors, on travaille continuellement en collaboration. Actuellement, je travaille sur le livre de l'Exode. Il y a un de ces manuels de traducteur qui a été édité en anglais, que j'adapte en français. Il ne s'agit pas simplement de traduire de l'anglais en français. Il faut vraiment l'adapter. Le destiner à des francophones. Alors, mon travail est relu régulièrement par ces deux collègues.
D'accord.
Je travaille de la même manière sur le livre de Job, aussi à partir d'un manuel anglais. Et puis, nous relisons les deux autres ces projets de traduction.
Ah,
on se critique mutuellement de manière positive, bien entendu.
Bien.
Mais non, c'est très précieux parce que. Il faut avoir un relecteur extérieur pour cela. Alors c'est vraiment, on est une bonne équipe. Il y a actuellement une responsable qui travaille en Afrique, une Américaine qui sait bien le français dans l'ensemble, enfin c'est pas sa langue maternelle. Mais qui est responsable pour ces manuels du traducteur en français. Alors qu'on a eu l'occasion de voir il y a une année et demie, on s'était retrouvés pour une session de quelques jours à Genève. Et puis alors on est continuellement en relation par courriel, pour ne pas dire email. On essaye de défendre la langue française aussi.
Bien sûr. Ah ouais, ça a l'air passionnant. Puis ça prend beaucoup de ton temps, alors ça.
Alors ça m'occupe bien. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis à côté de ça, j'ai deux groupes de personnes avec qui je fais de l'hébreu.
Tu enseignes l'hébreu alors?
Il y a un groupe qui a démarré il y a quelques mois, à qui je suis encore en train d'enseigner les rudiments de l'hébreu, et puis un autre groupe qui a démarré déjà plusieurs années, et c'est des gens qui maintenant ont des bonnes connaissances. Enfin, certains avaient déjà fait de l'hébreu auparavant, et puis avaient envie de se remettre dans cette langue. Alors,
ils ont envie de lire la Bible en texte, alors.
Alors, on lit des textes, effectivement. On a lu ces derniers temps un certain nombre de psaumes. Mm-hmm. Et en dernier lieu, il y a 15 jours, on a lu un psaume de Qumran, un psaume non vocalisé.
Qui n'est pas dans la Bible.
On en a une forme dans la Tobe, le psaume 151. Si tu regardes dans la Tobe, il y a un psaume 151 qui figurait dans le rouleau des psaumes de Qumran, avec un certain nombre de psaumes canoniques, et puis quelques autres, et puis celui-là, et on en connaissait une version grecque. Qui figure dans la Septante. Et la Tobe a traduit ce psaume 151 en note comme psaume 151. Mais le texte n'est pas tout à fait le même. Mais on a retrouvé justement à Qumran le texte hébreu. Évidemment, non vocalisé, puisque ça date du premier siècle avant l'ère chrétienne.
Les inventer,
alors, il faut restituer une vocalisation, parfois un petit peu artificielle d'ailleurs, mais pour retrouver le sens. Ouais. Mais disons, la langue hébraïque permet justement de donner toutes les indications avec les consonnes. La vocalisation en hébreu est très très fluctuante. C'est pas cela qui donne le sens fondamental des mots. Le sens est donné par les consonnes,
Ça change pas de
le
sens
squelette consonantique.
si on change de voyelle.
Donc, bon, il faut une certaine habitude pour arriver à lire un texte non vocalisé.
J'imagine.
D'ailleurs, l'hébreu moderne n'écrit que les consonnes aussi.
D'accord.
Oui. C'est une particularité des langues sémitiques. L'arabe, c'est la même chose également. Alors, on a lu ce texte sans la vocalisation. Bon, j'aurais pas demandé de lire le texte à haute voix parce qu'ils étaient incapables de mettre les bonnes voyelles. Mais ils se sont rendus compte que c'est parfaitement possible de reconnaître les mots même si on
À
n'a pas
partir
la vocalisation.
des consonnes.
Il y a des hésitations de temps en temps, mais l'essentiel, quand on a une connaissance du vocabulaire, on arrive à le
À le
reconnaître.
repérer. Il faut déjà une certaine habitude, hein, je pense. D'accord. Ça, c'est des groupes qui se retrouvent comme ça, une
Alors,
à la
comme ça,
quinzaine.
15 jours, 3 semaines, on passe 2-3 heures ensemble à travailler. Alors, dans cette équipe-là, ils m'ont demandé de prendre le cantique de Déborah dans le livre des Juges, chapitre 5. Alors, j'ai accepté, mais je les ai avertis qu'ils allaient suer.
Ah ouais, parce que c'est
C'est
un
un
hébreu
texte
particulièrement difficile.
particulièrement difficile, oui.
Ils veulent des défis, ces gens.
Oui. En fait, c'est un des plus anciens textes de l'Ancien Testament, au point de vue de sa rédaction. Donc, dans une langue qui a encore évolué par la suite, et il y a, du fait que c'est un texte difficile, déjà au niveau de la transmission du texte, les copistes, on a l'impression que de temps en temps, ils ne savaient pas très
Des
bien
distorsions.
ce que signifiait le texte, et puis ils ont essayé de le corriger, de l'améliorer, mais parfois ils l'ont tordu, ou bien ils ne le comprenaient pas exactement aussi. Alors, c'est un texte qui va nous donner du fil à retordre. Mais ce sera une expérience intéressante pour eux
C'est un
aussi,
défi,
comme pour moi. Voilà un petit peu en ce qui concerne ma vie de retraité.
Tes activités principales. Et tu prêches des fois encore en paroisse ou bien?
Non,
Non,
j'ai arrêté
j'ai arrêté.
aussi pour la même raison,
D'être debout
d'être
longtemps.
debout, immobile, pendant 10, 15, 20 minutes,
C'est déjà un peu
c'est
pénible.
un peu difficile.
Vous
Et
avez
place aux jeunes.
qui à Colombier maintenant que vous
Ben,
voyez pas?
il n'y a plus personne au lieu de vie de Colombier. Non, il n'a
Donc
pas
la
été
cure est
remplacé.
vide.
Alors, on a trois pasteurs,
Ah
qui est
oui,
sur le
l'autre
lieu de vie
est sur
d'Auvergné,
Auvergné, oui.
à Bôle, et puis
Et la vie.
à Rochefort.
Puis elle habite à Rochefort,
Elle
alors.
habite Rochefort.
Comme ici, à
Donc,
Kingston, un peu.
elles ne sont pas sur place. Et bon, bah, ça signifie que la cure n'a plus de pasteur.
C'est
Actuellement,
dommage pour cette
elle est
belle maison. Elle est
louée.
louée quand
Elle est
même.
louée quand même pour que l'Église en retire quand même la moindre des choses. Mais c'est le problème le plus difficile à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a plus de répondants sur place. Les trois dames assument très bien le travail qui est à faire dans l'ensemble de la paroisse,
Mais c'est
comme
pas la même
c'est une
chose que
seule paroisse, mais
d'avoir.
seulement psychologiquement, les paroissiens de Colombier ont le sentiment de
D'être
ne
un
plus
petit peu,
avoir leur pasteur.
d'être pas abandonné, quand même.
Oui. C'est un
J'imagine.
petit peu difficile de ce côté-là, malheureusement.
Donc il n'y a pas un culte tous les dimanches non plus, alors.
Non, alors ça, bien sûr, il y a en général deux cultes par dimanche dans le cadre de la paroisse. de temps en temps un seul culte régional, mais en général, il y en a quand même deux par dimanche.
Et les gens se déplacent ou bien
les gens se déplacent, oui. Disons, un certain nombre. Il y en a qui se déplacent très régulièrement. Il y en a d'autres qui ont beaucoup plus de peine à se déplacer. Bon, il y a un service de transport qui est organisé, mais il n'est pas très souvent utilisé, en tout cas pas par de nombreuses personnes. Bon, on dira que la plupart des gens à l'heure actuelle ont leur propre voiture aussi. Et il y en a pas mal qui se déplacent quand même quand c'est à Rochefort, c'est pas la porte à côté, mais enfin bon, il y a quand même toujours un bon nombre de gens extérieurs à Rochefort qui participent au culte.
Un petit peu. Alors, parle-moi un petit peu de la famille. Tu as des petits-enfants, toi.
Alors, au niveau de la famille, il y a j'ai donc trois enfants. Un fils aîné qui n'est pas marié, qui n'a pas d'enfant, du moins à ma connaissance. J'ai ensuite une fille qui est mariée, qui habite Lausanne, et qui a deux mistons de 8 et 10 ans, enfin bientôt on le fait 11 ans. Et puis le troisième, un garçon qui n'est pas marié non plus, qui travaille comme horloger rabilleur au Locle, chez Tissot au Locle, qui se plaît bien là-haut. Donc lui est handicapé de naissance, handicapé physique. Et alors, mais il a pu faire sa formation d'horloger dans une institution de l'AI à Bienne. Et puis ça fait maintenant 15 ans qu'il est engagé là chez Tissot. Il se plaît bien là-haut, il aime beaucoup son coin du Locle.
Il habite là-haut, il a ses
connaissances, ses copains. Il est en contact très facile. Alors ça, c'est agréable pour cela, parce que il est très serviable, il est prêt à rendre service à ses copains, et puis les copains le lui rendent aussi.
Donc il a une bonne vie sociale alors.
Alors il a une bonne vie sociale, il fait partie d'un groupe de sportifs en chaise roulante. Qui a été créé justement pour des gens en chaise roulante. C'est une espèce de mélange de handball, de football, etc. Ils ne tirent pas avec les pieds, évidemment, mais avec les bras, et il est très intéressé par cela. Et puis ça lui donne justement des occasions de contact.
En dehors du travail. Et puis,
Non, il a toujours, dès qu'il a été à l'école, il a toujours pu suivre l'école dans des conditions normales. Et ça a été très appréciable. Et puis, il a, d'une part, ce qu'il n'avait pas comme possibilité physique, il se défendait très bien avec sa langue vis-à-vis des copains. Alors, il ne pouvait pas tellement se bagarrer avec les autres, mais il savait très bien les remettre en place et leur répondre. Et puis, surtout, il a toujours été bien accueilli par le corps enseignant. Et ça, c'était... On a toujours été extrêmement... reconnaissant, parce que il a toujours été intégré dans la classe, on n'a pas fait de différence avec lui. À l'école primaire, son prof de gym Il a toujours dit, tu viens avec nous, tu fais ce que tu peux mm-hmm. avec les autres. Quand tu peux plus, bah, tu t'arrêtes.
Mm-hmm. Mais donc, il était toujours en chaise roulante.
Il n'était pas en chaise roulante encore. Non. Il pouvait quand même encore un peu marcher, mais il avait des difficultés. Il avait des cannes, il marchait avec des cannes. Mais bon, il arrivait à se déplacer sans ses cannes comme gamin. Bon, très rapidement, il s'est mis au vélo, il se déplaçait avec son vélo, ça allait bien de ce côté-là. Mais alors, justement, le prof de gym là était vraiment très très sympathique. Quand il partait avec la classe pour aller faire une marche, il le prenait sur ses épaules. Il partait le long du bord du lac jusqu'à Auvergnier, puis à Auvergnier, ben, il le mettait dans le tram, il lui payait le tram pour rentrer, il avait son vélo à la gare du tram, comme ça.
Il est tout
autonome. Et quand il est arrivé en secondaire, ici à Sescolles, les 6 premiers mois de l'année, il avait un prof de gym qui a toujours voulu aussi qu'il participe à la gym de la même manière. Mmh. Et puis ensuite, ce prof a, pour je ne sais plus quelle raison, été déchargé d'une partie de son enseignement. Mmh. Et puis j'ai un jeune stagiaire qui a repris, entre autres, la classe de Philippe. Mmh. Et il avait fait sa formation de maître d'éducation physique, mais il avait l'intention de se spécialiser dans le domaine des handicapés.
Ah, justement.
Alors, il est venu nous trouver, il a pris rendez-vous avec nous, en nous demandant, est-ce que vous seriez d'accord que je prenne Philippe en dehors des heures d'école pour faire avec lui un certain nombre d'exercices.
En plus,
qu'il soit adapté à ses possibilités. On était tout à fait d'accord. Alors, il est allé trouver notre médecin de famille. Il est allé trouver une physiothérapeute pour demander, au fond, quels exercices seraient adaptés pour lui. Et puis ensuite, alors il est allé demander au directeur de cette école à pouvoir disposer de la salle de gym un après-midi par semaine entre 5h et 5h30. Mm-hmm. Et puis le directeur d'alors a dit « Oh, mais ça pose des problèmes parce qu'il y a des questions d'assurance, si c'est en dehors des heures d'école, etc. » Vraiment, il mettait les pieds contre le mur. Alors, comme le jeune en question connaissait le prof d'école primaire, il est allé le trouver et puis il lui en a parlé. Puis le gars lui a dit, mais t'inquiète pas, moi je peux disposer de la salle de gym de l'école primaire tel et tel après-midi en 5 et 6. Alors surtout, tu vas demander à personne. Et puis, on va, tu viens avec Philippe que je connais bien, tu fais ce que tu veux faire avec lui. Et. Ben, malheureusement, il a fait un stage de 6 mois. C'était pas un poste définitif. Ouais. Mais enfin, disons, il y a eu cet aspect-là qui a aussi été extrêmement positif pour
Philippe. Il a peut-être eu des idées après pour son club.
Alors, ensuite, bon, il a fait sa formation pendant 4 ans, là, à Bienne. Mm-hmm. Puis il a trouvé cette place. Ce n'est que par la suite, ce n'est pas tout de suite que ce club s'est fondé. C'est un groupe de trois amis sportifs qui ont imaginé ce genre de sport pour des gens en chaise roulante, ou aussi des gens qui ne sont pas forcément en chaise roulante. Alors, il y en a qui sont, qui peuvent se déplacer, qui peuvent marcher. Il y en a d'autres qui ne le peuvent pas. Il y en a qui peuvent, qui sont vraiment très handicapés et qui peuvent juste pousser une balle comme ça, mais même avec le dos de la main. Alors ceux-là sont dans une chaise roulante, mais ils sont poussés par quelqu'un de valide.
Ah oui, donc les participent.
Il y a une participation comme cela. Alors ces trois jeunes avaient inventé progressivement ce sport qui s'est répandu maintenant un peu en Suisse romande. Il y a une équipe à La Chaux-de-Fonds, il y a une équipe au Valais, il y en a une à Lausanne, sauf erreur. C'est pas encore très répandu, mais ils ont de temps en temps des tournois romands.
Ah, donc ils se retrouvent.
Ils se retrouvent avec d'autres équipes. Oui. Ah. Alors ça lui plaît beaucoup.
Et il est très positif.
Il a toujours été très positif. Ça, c'est une chance aussi. Il ne s'est jamais apitoyé sur son sort. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif pour nous aussi.
Et puis aussi qu'il soit autonome.
Il a tout à fait son autonomie. Il a sa voiture. Il peut conduire sa voiture. Bon, adapté, toutes les commandes au volant, bien sûr. Au fond, c'est une malformation congénitale au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de la colonne lombaire, ce qui signifie que tout ce qui est innervé depuis ce niveau-là est très mal ou très peu innervé. Donc il a beaucoup de peine à marcher. Il y en a un de ses copains qui a 15 jours de moins que lui, dont il a fait la connaissance par la suite lors de son apprentissage, mais qui lui est complètement en chaise roulante, qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas se déplacer. Donc il n'a que très peu de sensibilité dans les jambes, dans les pieds, et c'est là le problème au départ.